secours de Ravaillman a été donné le 14 novembre 1990 à partir du traité Avodah Zara, Daf Yud Aleph Amud Bet, page 11b, 7e ligne.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda Anir au nom de Shmuel, od acheret yeshlaem beromi. Motamo, od acheret, il y a encore une autre fête, yeshlaem beromi, qui existe à Rome. Qu'est-ce que c'est que cette fête? Achat le Shivim Shana. Ça se passe une fois tous les 70 ans. Mais vit Madame Shalem. Les Romains avaient l'habitude d'amener Adam Shalem, un homme bien portant. Ou Markivi Moto al Adam Chiger. On le met sur les épaules d'un homme boiteux. Ou Malbishi Moto Big de Adam Arishon. Et on lui met les habits de Adam Arishon, Adam, le premier homme. Les habits qu'avait confectionné Akadosh Baruch Hu pour Adam et pour sa femme. Ou manichim lo berosho, karkiflo shel Rabbi Ishmael. On lui met sur la tête karkiflo shel Rabbi Ishmael. Alors karkiflo shel Rabbi Ishmael, c'est une histoire assez triste. Rabbi Ishmael était Kohen Gadol, c'était le grand prêtre. Et lorsque les Romains l'ont tué, parmi les 10 Arugé Malchut, ceux qui avaient été torturés parce qu'ils enseignaient la Torah, il y avait Rabbi Ishmael et la fille de César. Voulant conserver son visage comme il était beau, elle l'avait fait embaumer et elle en avait tiré un masque de la peau. Ce qu'on appelle Karakiflo chez Rabbi Ishmael. Vetaloule betzavarei mitkal arbamod zuzei de Fiza. Et on met à son cou une pierre précieuse de la valeur de 400 zouz. Ou mechafim et ashvakim be'enach. Et les murs des rues, on les tend de soi. Et on fait aller dans toutes les rues de Rome, donc une fois tous les 70 ans, cet homme boiteux qui porte l'autre, Machrizim le Fanav, et voilà ce que l'on annonce dans cette procession. Sar Keirei Plaster. Sar Keirei, Rashi traduit, et il dit Sar, c'est le compte, c'est-à-dire ce qu'a envisagé, ce que voulait faire Keirei, le chef, Plaster, ça s'est révélé faux. Il y a quelqu'un qui a eu une idée, et ça n'a pas marché. Achva de Marana, le frère de notre maître c'est Esaü, et ils savent, Zaifana, c'est un faussaire. De Chamei Chamei, ou de Lochamei Lochamei. Celui qui se réjouit maintenant se réjouit, et celui qui ne se réjouit pas n'aura pas d'autre occasion de se réjouir, puisque une fois tous les 70 ans, on a l'habitude de penser que la vie d'un homme est à peu près de 70 ans. Mayahana le Rama de Ramanute. Regardez ce qu'a servi le mensonge pour le menteur. Ou le Zaifana be Zaifanuta. Regardez ce qu'a servi la fausseté au faussaire. Ou me saïme bahari, et on termine la procession en disant Vaïledein kadiakum dein. Malheur à celui qui est en haut, kadiakum dein, lorsque se relèvera celui qui est en bas. Ça, c'est le texte de la Gemara. Alors, on va reprendre. La Gemara dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel od acheret yeshlaem beromi. Il y a la Gemara ici, relate les fêtes qui avaient lieu à Rome. Il y a encore une autre fête à Rome. Tous les 70 ans, me vit Madame Chalemar qui monte la Riam Riger, on prend quelqu'un qui boite et on lui met sur les épaules quelqu'un d'entier. Ou mal bishimotobik de Adam Arishon, on lui met les habits de Adam Arishon. Manichim no borosho karkiflo chez Rabbi Ishmael, et on lui met le masque de Rabbi Ishmael sur sa figure. On lui met une pierre précieuse au cou. Voilà ce qu'a voulu le chef, ça ne s'est pas réalisé. Arvad Marana Zaifa, le frère de notre maître, était un faussaire. De Chame Chame, de Chame Lochame, celui qui a l'occasion de s'en réjouir, c'est bien, sinon non. Mayane le Rama Abramute, regardez ce qu'on gagne à mentir, ou le Zaifana be Zaifanute, et regardez ce que gagne le faussaire de sa fausseté. Et on termine en disant malheur à celui qui est en haut, c'est-à-dire Ésaü, lorsque Yakum Dein, lorsque se relèvera celui qui est en bas, c'est-à-dire Yaakov. Ici, ce n'est pas tellement le problème de la relation entre Yaakov et son frère Esav qui est en jeu. On va essayer de voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Voilà qu'à Rome, on célébrait une fête une fois tous les 70 ans. Et on disait, puisque le boiteux, c'est-à-dire Yaakov, qui a été blessé par l'ange à la hanche et qui boitait, c'est celui qui est en bas, c'est-à-dire c'est celui qui est persécuté, c'est celui qui est sous le joug de l'autre, qui est Ésaü, et Esav. Alors, voyez le résultat de Sar, Keire et Plaster. C'est-à-dire, Yaakov a échafaudé tout un plan. Tout le monde le connaît, c'est la paracha de cette semaine. Il s'est déguisé en Esav. Il a eu la bracha de son père. C'est lui qui a donné naissance au peuple juif. Et voilà que le peuple juif, c'est un peuple boiteux qui est persécuté par Ésaü. Voilà ce qu'on reçoit lorsqu'on ment, lorsque ce qu'on fait est faux. C'est-à-dire, voilà le résultat. Donc, Yaakov a ce qu'il mérite, parce que la soi-disant bracha qu'il aurait reçue, elle ne vaut rien puisque c'était faux. Donc voilà l'attrapeur attrapé, et la vraie bracha, c'est Esav qu'il a eu. Ensuite, on termine en disant, Vaïleden Kadiakumden. Alors attention, malheur à Esav si jamais Yaakov se venge. La première question est très simple. Si quelqu'un est un faussaire, et si quelqu'un a une bracha qui ne mérite pas, pourquoi toujours s'ingénier à prouver que la bracha n'existe pas ou qu'elle est fausse? On va donner un exemple très simple. Moi, je me fais passer pour un autre. Et on voit que ça n'a pas marché, puisque je n'ai pas eu ce que je voulais. Si on y croit, si c'est vrai, c'est-à-dire que le mensonge ne paye pas, alors pourquoi tu as besoin de te mettre sur l'autre? Pourquoi tu as besoin de persécuter l'autre? Laisse faire, de toute façon, le mensonge, il ne payera pas. Si tu le persécutes, c'est parce que tu as peur que le mensonge paye. Alors, où est la vérité là-dedans? Deuxième question. Si en vérité le mensonge ne paye pas, n'aie pas peur du jour où il se relèvera. De toute façon, il ne se relèvera pas. Puisque c'est Ésaü qui a eu la bracha. C'est-à-dire que c'est Esav qui aura le rôle de celui qui fixera les données et les civilisations dans le monde. Alors, n'aie pas peur de celui qui se relèvera, puisque de toute façon, lui, ce n'est qu'un ramaï, ce n'est qu'un faussaire. C'est-à-dire que la vérité, elle est un petit peu ambiguë. Yaakov, c'est un faussaire. Il boite, il est persécuté, il a été puni. Donc tout le monde est content. Alors pourquoi est-ce que on essaie de mettre tous ses efforts pour persécuter Yaakov? Puisque de toute façon, c'est un faussaire. De toute façon, le mensonge ne paye pas. Et pourquoi avoir peur de lui? Parce que Esav, c'est l'aîné, Esav, c'est le plus fort. On va demander peut-être une autre question. Yaakov s'est déguisé en Esav pour recevoir la bracha. On a déjà une fois parlé et essayer de savoir est-ce que cette bracha-là, ça veut dire quelque chose de l'apprendre par force? Est-ce que ça veut dire quelque chose de recevoir une bracha qui n'est pas la sienne? Normalement, on comprend la bracha, c'est-à-dire que on développe le potentiel d'une personne, on donne à quelqu'un de quoi grandir, et la bracha de l'un ne peut pas aller sur l'autre. Mais est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce que c'est bien d'avoir volé une bracha? Est-ce que ça a un résultat? Et savent, et essaient de prouver que non. Ça veut dire, on nous accuse d'être des faussaires. Le vrai Israël, c'est pas celui qu'on croit. D'accord. Mais en fin de compte, on a peur que le mensonge réussisse quand même. Parce que sinon, c'est pas la peine de représenter celui qui est en bonne forme à cheval sur le faussaire, à cheval sur le voleur, à cheval sur le menteur. On va demander peut-être plus loin. Qui est-ce qui était le faussaire? Est-ce que c'était Esav qui se faisait passer pour un juste alors qu'il ne l'était pas? Ou c'est Yaakov qui s'est déguisé en Esav pour recevoir la bracha? Qui est le faussaire? On va poser encore une autre question. Est-ce que le émet, c'est-à-dire la vérité, et le shaker, le mensonge, sont définis par simplement le fait qu'il soit une relation de la vérité ou n'en soit pas? On va donner un exemple. Est-ce que la définition de émet, ou disons, on va dire le contraire, la définition du mensonge, c'est quelque chose qui ne colle pas à la réalité? Ou peut-être la réalité, elle est mensongère? Alors, où se situe le mensonge? On va donner un exemple. Yitzhak veut que la démarche qui est la sienne et celle d'Abraham est un héritier. Alors, il est trompé par Esav, puisque on nous dit que Esav se faisait passer pour quelqu'un qui voulait continuer l'œuvre d'Abraham, mais en vérité, il n'en avait aucune intention. Alors lui veut transmettre tout ce qu'il possède à quelqu'un qui le trompe. Et finalement, c'est l'attrapeur attrapé, puisque celui qui a trompé est trompé par Yaakov. Et en fin de compte, c'est à lui qui était destiné la bracha. Alors si on parle en termes de vérité et de mensonge, est-ce que c'est tellement facile de savoir où est la vérité, où est le mensonge? Si j'ai un bien qui m'appartient et qu'on me l'a volé, est-ce que j'ai le droit de me déguiser et de prendre l'apparence du voleur pour le récupérer? Ou c'est un mensonge? On va aller plus loin. Un médecin, un patient qui est malade. Il y a des choses qu'il ne peut pas lui révéler sur sa maladie. Et le malade, au fond, il ne veut pas savoir. Il veut savoir qu'une chose, parce qu'il n'est pas malade vraiment. Alors, est-ce que c'est un mensonge de lui dire qu'il n'est pas malade? Ou peut-être le mensonge, c'est de lui dire justement qu'il est malade, parce que de cette vérité-là, il ne peut rien faire. Est-ce que je dois aller selon ce qui est bon pour le malade, c'est-à-dire la vérité qui est la sienne, ou je dois relater l'événement, ou je dois relater la réalité? On va aller encore plus loin. Dans la Torah, il y a marqué « Midvar sheker tirak » mot à mot, « Éloigne-toi du mensonge ». Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah, comme dans toutes les mitzvot, l'auto chacun ne ment pas? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? L'octidnov ne vole pas. L'otir tsar, ne tue pas. Alors que la Torah me dise, l'otir chaker, ne monte pas. La Torah ne dit pas ça, elle dit, éloigne-toi du mensonge. Alors peut-être qu'on va dégager une autre définition du mensonge que celle qu'on connaît habituellement. Nous, notre définition du mensonge, elle est simple. Tout ce qui ne relate pas les faits, c'est un mensonge. Le patient vient chez le malade, il dit « Docteur, j'ai le cancer. » Si je lui dis oui, c'est pas un mensonge. Si je lui dis non, c'est un mensonge. Mais peut-être que le malade, il n'a pas demandé au médecin si j'ai le cancer. Il a juste demandé « Dites-moi que je ne l'ai pas. » Alors maintenant, le problème de la vérité du mensonge va se poser autrement. On voit dans la Torah que Dieu lui-même a menti lorsqu'il a parlé à Abraham. Pourquoi ? Lorsque on a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un héritier qui s'appelait Yitzhak, lui il avait 100 ans, sa femme 90 ans, sa femme Sarah, sa femme Marie, va Yitzhak Sarah Bekir Balemor. Elle a rigolé, qu'est-ce qu'elle a dit ? Avec un vieux mari comme ça, on peut avoir un enfant. Lorsque Akadosh Baruch Hu a parlé à Abraham, il n'a pas dit que Sarah a dit, est-ce qu'avec un vieux mari comme ça, on peut avoir un enfant ? Il a dit autre chose, il a dit, Vani Zakanti, comment une vieille femme comme moi peut avoir un enfant ? Et Rachaim demanda, ah, Sarah n'a pas parlé d'elle-même, elle a parlé de son mari. Alors la Gemara dit Moutar le Shanot Bipti Hashalom. De là, on voit que on a le droit de changer. Qu'on nous dise carrément, on a le droit de mentir. Non, on nous dit Moutar le Shanot. On a le droit de changer Bipti Hashalom. Pour la paix. À quoi ça sert de faire la guerre ? À quoi ça sert de mettre deux personnes en bagarre ? À quoi ça sert de dire Avram, tu sais ce que ta femme a dit ? Ça sert à rien. Ça veut dire que le Shanot, de changer, c'est changer ma façon de parler, mais peut-être aussi changer de référence par rapport à ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que la définition de ce qui est sheker, ce qui est mentir, c'est peut-être pas celle qu'on croit, et qui est uniquement le fait de relater quelque chose sans s'accorder à la réalité. C'est peut-être pas ça. C'est que peut-être que derrière la réalité qu'on voit, il y a quelque chose d'autre. Et par rapport à cette autre chose, ce qu'on dit, c'est peut-être pas un mensonge. C'est ce qu'on appelle le chanot. On change. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah ? Sarah est venue, elle a dit, voilà. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on a déjà vu qu'un vieillard ait des enfants ? Maintenant qu'elle a 90 ans, lui en a 100 ans, ça n'a pas, on va dire, pire que ça. Non seulement ça ne fait pas de différence, mais la seule différence en relatant à Abraham ce qu'a dit Sarah, et la seule importance que ça peut avoir, c'est simplement la bagarre qui va s'en suivre. Mais dans la réflexion, ça ne change rien. Parce que d'avoir pour une femme un enfant à 90 ans ou pour un homme à 100 ans, la différence, elle n'existe pas. Donc le seul intérêt de relater les faits tels qu'ils sont, c'est qu'on cause une bagarre. Si on veut qu'il y ait le shalom, on ne va pas relater les faits tels qu'ils sont, mais on va relater l'intention telle qu'elle était. C'est-à-dire de dire que pour des vieux, tiens, on va déjà parler d'eux, pour des vieux, c'est bizarre d'avoir un enfant à cet âge-là. Et pour une vieille femme, c'est aussi bizarre. Et ça ne fait aucune différence dans l'intention que j'ai de relater les faits, que je parle d'Abraham ou de Sarah. Ce que la Gemara appelle le shanot. Lorsqu'un malade demande au médecin, est-ce que j'ai le cancer ? Il ne demande pas une information neutre. C'est pas comme si c'était le journal. Il demande Ça dépend des gens, mais il est possible, souvent ils demandent, dites-moi que je ne l'ai pas. Parce que c'est à ça que je peux m'accrocher. Ça, c'est ma vérité à moi. Il ne veut pas savoir la réalité. Ça veut dire que lorsque je rentre dans le système de l'autre, la référence de ce qui est réalité et ce qui n'est pas, elle change. Et si le médecin lui dit, si, vous avez le cancer. C'est vrai que par rapport aux faits, il n'a pas menti. Mais par rapport à ce qui lui était demandé, et qui n'était pas du tout la relation des faits, là, il a menti. Lorsque la Torah dit « Midvar sheker tirhak », tu t'éloignes du mensonge, ça veut dire qu'on parle de l'éloignement de l'homme par rapport au mensonge. Si quelqu'un est éloigné du mensonge, même s'il le profère, c'était plus un mensonge. Ce qu'on ne veut pas, c'est que notre système soit basé sur le mensonge. Mais que lorsqu'on rentre dans le système de l'autre, ça puisse être un mensonge pour moi. Moi, je suis loin. Midvar sheker tichak. La Torah ne dit pas, ne mens pas. La Torah dit, éloigne-toi. Donc, si je suis éloigné, c'est-à-dire si moi, je ne suis plus en cause, le problème du mensonge, il n'est peut-être plus en référence à moi, mais il est en référence au sujet. Qu'Akadosh Baruch Hu ait entendu que Sarah dise ceci ou cela, ça importe eux et ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant de savoir, c'est dans le système Abraham et Sarah, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vrai. Alors ce qui est vrai, c'est que ça ne fait pas de différence que ce soit lui qui ait un enfant ou elle qui ait un enfant. Donc c'est peut-être comme ça qu'on pourrait comprendre le mensonge. Pas qu'il y ait un pieux mensonge. C'est que la définition du mensonge, c'est lorsque moi j'y suis imbriqué. Mais si je ne suis pas dedans, c'est-à-dire que je suis obligé de me placer sur un système qui m'est extérieur, le médecin, qui dise la vérité ou non, en fin de compte, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est son rapport avec le malade. Qu'a-t-il fait pour le malade? Le malade attend de lui quelque chose. Lorsqu'il ne fait pas, c'est ça le mensonge. Lui n'est pas en cause. Donc lui, il est loin du mensonge. C'est peut-être ça ce que la Torah demande. Parce que c'est trop facile de s'accrocher à la relation des faits pour se baser si la chose est vraie ou fausse. On va donner un exemple, l'exemple qu'on a donné avant. Voilà Esav qui a trompé son père pendant 10, 20, 30 ans, on ne sait pas. Son père pense que ça va être un bon chef pour le futur peuple juif. Yaakov est obligé de se déguiser en Esav pour pouvoir prendre sa place. Vous allez me dire, objectivement, on ne sait pas. Mais on sait, en tout cas, que si on regarde les faits, il y a deux menteurs, pas un. Il y en a un qui venait chez son père et qui lui montrait qu'il était très pieux alors qu'il n'était pas. Et il y en a un qui a pris les habits qui n'étaient pas les siens. Alors si on s'en tient aux faits, les deux sont des menteurs. Si on s'en tient à la réalité, à qui Yitzhak aurait voulu donner la bracha s'il avait tout su? Évidemment à Yaakov, pas Esav. Parce que Yaakov l'a trompé pour rétablir ce que Yitzhak s'était trompé. C'est pour ça que lorsqu'il a remarqué, il n'a pas voulu revenir sur sa bracha. Alors attention, c'est facile de dire, moi je détiens la vérité, je rétablis les faits. On va en revenir à l'histoire de la Gemara. La Gemara vient et me dit, voilà, à Rome, on traite Yaakov. Yaakov, c'est le Zaïfan, le faussaire. Il s'est déguisé en Esav pour obtenir la bracha, donc ça n'a pas de valeur. Nous, on a demandé, si ça n'a pas de valeur, pourquoi tu insistes? Puisque c'est le peuple maudit. Pourquoi tu es toujours après lui? J'ai entendu il n'y a pas longtemps une émission de radio. La radio s'appelle Radio Notre-Dame. Alors on expliquait là-bas qu'il ne faut surtout pas anéantir le peuple juif. Parce que sinon, il n'y aurait pas de témoin de la déchéance du peuple juif si on l'anéantit. Donc il faut aider les juifs à ne pas disparaître. Parce que s'ils disparaissaient, on ne verrait plus que la promesse faite à Esav, il le dit dans un autre langage, il appelle plus Esav mais Yeshua, on ne verrait plus qu'elle s'est réalisée. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est un peuple qui a raté son histoire. Ce n'est pas le peuple élu. Mais si on l'anéantit, on n'en aura plus de preuves. Alors il faut le laisser dans sa déchéance et surtout ne pas l'anéantir. Vous pouvez l'entendre sur Radio Notre-Dame. Alors, moi quand j'ai entendu ça, je me suis demandé, ça c'est exactement la Gemara qui est marquée ici. Si le peuple juif est en telle déchéance, alors pourquoi veux-tu tellement aider le bon Dieu et le laisser pour prouver qu'il est en déchéance? L'espère. Non, s'il anéantit, on n'aura plus de preuves. Ça veut donc dire que l'histoire elle-même, elle ne suffit pas à prouver. On a besoin de quelqu'un qui aide l'histoire. Donc c'est que l'histoire, c'est pas une preuve. Si l'histoire n'est pas une preuve, alors la déchéance, entre parenthèses, du peuple juif, c'est pas une preuve non plus. Si le bon Dieu compte sur les chrétiens pour que soit prouvée la déchéance du peuple juif, alors jusqu'où on va? Ça, c'est ce qui est marqué ici dans la Gemara. Qu'est-ce que la définition d'un... Quelqu'un vient et vous dit, voilà, le peuple juif, tu as vu, on lui a promis, regardez où ils en sont. Ils ont une petite terre, ils se battent avec tout le monde pour garder un open terre. Ils sont dispersés parmi les nations. Cette dispersion, c'est la preuve de leur déchéance. Ça, c'est objectif, c'est pas un mensonge. Il faut surtout qu'ils restent comme ça. Parce qu'on a peur que la réalité ne soit pas une preuve. Parce que si jamais ils disparaissaient, on n'aurait plus de preuves. Mais alors, si la réalité prouve, tu n'as pas besoin de l'aider. Si c'est l'histoire qui te donne l'épreuve, si c'est la réalité qui est tellement juste, ne l'aide pas, laisse-la. N'aie pas peur. Ah, tu as peur. Donc, ce que tu dis n'est pas vrai. Parce qu'il y a une autre histoire derrière. C'est que c'est le dernier qui gagnera. Et ça, on a peur. C'est ce qui est marqué ici dans la Gemara. On vient, on dit, regarde, tu as vu le peuple juif dispersé, c'est la preuve qu'il n'est pas le peuple élu. Très bien. Tiens-toi-en là. On termine, on dit, Vaïledeim qui a Komden. Malheur à Esaü lorsque Jacob se relèvera. Mais il ne peut pas se relever puisqu'il n'est pas le peuple élu. Tu aurais eu la preuve. Ah, c'est que la preuve n'est pas une preuve. Parce qu'il y a un autre système. Celui qu'on ne voit pas peut-être. Celui qui fait que le ramaï, le faussaire, ce n'était pas Jacob, c'était Esaü. Si je me déguise avec l'uniforme de mon voleur pour récupérer mon bien, alors peut-être on va regarder les faits d'un autre côté. C'est pour ça que la Torah nous dit « Midvar Sheker Tirak ». Éloigne-toi des mensonges. Tu vas voir les choses sans te mettre toi dans la photo. Tu ne fais pas partie. Regarde les choses. Chaque fois que tu fais partie, tu ne trouves plus le système. Parce que tu vas regarder la vérité selon ce système-là. Mais il y en a d'autres. Et ça, il vient, il dit, tu as vu, Jacob, c'est un faussaire, il m'a pris. Bien sûr qu'il t'a pris. C'est vrai, c'est un faussaire. Mais peut-être c'est comme ça qu'il faut être. C'est ça la vérité d'être un faussaire. Ah, la vérité, c'est de mentir. Alors si vous dites ça, quelqu'un va dire, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu sais très bien, parce que tu as peur qu'il se relève. Tu as peur donc que la vérité, c'était d'être faussaire. C'est donc il y a deux systèmes différents. On ne sait plus où est le mensonge ou la vérité. C'est pour ça que la Torah nous dit, Midvar Sheker Tirak, toi tu t'éloignes. Une fois que tu t'es éloigné du problème, tu vas voir le problème. Chaque fois que tu fais partie, tu juges selon ton système. Et c'est toi qui as commencé le système, et c'est toi qui as commencé l'histoire. Alors la relation des faits, c'est pas ça la vérité. Il est évident que si un médecin, Lorsqu'un malade lui demande « Docteur, est-ce que je suis malade ?» Il se voit à l'hôpital, interrogé par le professeur. Alors s'il dit « Vous n'êtes pas malade, c'est un mensonge. » Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi tu te mets dans le système ? Regarde le système de l'autre. L'autre ne t'a pas demandé ça. Il ne t'a pas demandé ce que tu es capable. Au contraire, il te demande de le rassurer. Parce qu'il n'est pas capable justement de supporter la vérité. Donc lui veut autre chose. Alors si on se met sur la photo, si on se met dans le système, alors en fin de compte, on a dénaturé la vérité et on va se retrouver avec une définition de mensonge qui n'est pas la bonne. On va donner un exemple. Moshe Rabbeinu, il est arrivé un petit ennui la première fois qu'on a amené les sacrifices dans le Ohel Moed. Il y avait le premier Khatat de Rosh Chodesh. Vous savez qu'à Rosh Chodesh, on amène un sacrifice spécial qui s'appelle Khatat de Rosh Chodesh. Il a fait une erreur. Alors Aaron lui a dit, pourquoi tu t'en prends? Parce qu'il était en train de réprimander Elazar et Itamar, les fils d'Aaron. Aaron lui a dit, peut-être c'est pas comme ça. Alors Moshe Rabbeinu lui a répondu, j'ai oublié. T'as raison, j'ai oublié. Les Chachamim disent, Moshe Rabbeinu, il a eu le courage de dire j'ai oublié. Il va dire, comment il a le courage de dire j'ai oublié? La vérité, c'est la vérité. Non. Imaginez-vous que vous êtes celui qui va transmettre la loi de la part d'Akadosh Baruch Hu à un peuple. Donc on compte sur vous. Si on pense qu'il s'est trompé, on ne peut pas lui faire confiance. Et qu'à la fin de tout, quand tout est donné, il vous dit, vous savez, là je me suis trompé, là je me suis trompé, là je me suis... Ah ben, ça y est, c'est terminé. Si je regarde le système qui est Moshe Rabbeinu, pas en tant que personnel, Moshe Rabbeinu en tant que celui qui doit retransmettre un message, alors tu dis toi-même que tu n'es pas capable d'être fidèle, arrête. Si là Moshe s'est trompé, il s'est peut-être trompé là, il s'est peut-être trompé là aussi. Donc normalement, il eût mieux valu dire « je ne me suis pas trompé » pour que le personnage de Moshe Rabbeinu reste crédible. D'un autre côté, puisque tu t'es trompé, tu ne vas pas faire au peuple juif, juste pour être crédible, pendant toute son histoire, quelque chose qui est contraire à ce que Akadosh Baruch Hu t'a dit. Et le dilemme, il est formidable. Pourquoi? Parce que si je dis que je me suis trompé, il ne reste plus rien. Parce que les autres, automatiquement, vont dire, bon, il s'est trompé dans une chose. Nous, on fait peur, on attend. Il n'est plus crédible. Dans l'histoire, on va inscrire Moshe Rabbeinu comme quelqu'un de ne pas crédible. Il a retransmis, lui-même a avoué qu'il s'est trompé, donc pour le reste, on a le droit de douter. Peut-être que là aussi, il s'est trompé, mais il n'a pas remarqué. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux un système, parce que Moshe Rabbeinu a compris qu'il s'était trompé, moins une loi fausse, mais un système qui reste. Ou il vaut mieux que le système soit entièrement détruit. Nous, on aurait dit, la vérité, c'est la vérité, et puis c'est tout. Les Chachamim disent, c'est pas si simple. Ça, on ne peut regarder de cette façon-là que si soi-même, on s'est mis en dehors du problème. Quelqu'un qui s'est trompé, vous dites, je me suis trompé. Mais toi, tu dois être crédible, comment peux-tu dire, je me suis trompé? Moi, je dois toujours me voir comme étant en dehors. Si j'agis en faisant partie du problème, c'est que c'est faux. Nous, on appellerait ça la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire, que Moshe Rabbeinu a pris le risque de ne plus être crédible sur la Torah entière. Pourquoi ? Pour dire la vérité. C'est difficile de ne pas mentir. C'est difficile d'être en cause. Il l'a fait. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Alors vous allez me dire, mais lorsque le malade pose une question et que moi je veux lui mentir, on va aussi dire la fin ne justifie pas les moyens. Il faut lui dire la vérité. C'est là où se situe le débat entre la vérité et le mensonge. Lorsqu'il s'agit d'un autre, je dois rentrer dans le système de l'autre. Lorsqu'il s'agit de moi, la fin ne justifie pas les moyens. Mais lorsqu'il s'agit de l'autre, il ne faut pas regarder la fin qui est la mienne, il faut regarder la fin qui est celle de l'autre. Il faut regarder le moyen qui est celui de l'autre, pas le mien. Dans chaque réalité, il y a une interprétation. Dans chaque réalité, il y a une autre réalité. La Gemara raconte que lorsque Yaakov Avinu a envoyé des messagers chez Esav avec des présents, avec l'angoisse de la guerre qui serait lancée par Esav, on a dit de lui que c'est comme celui qui va sur une route. Il y a un chien qui dort tranquillement, un chien méchant. Si tu passes sur la route, il ne te fera rien du tout. Non, tu vas, tu lui ouvres l'œil, tu lui tires l'oreille pour voir s'il dort vraiment bien. Alors tu l'as réveillé. Yaakov Avinu a risqué sa vie avec Esav parce que c'est lui qui l'a réveillé. Il ne fallait pas lui envoyer des présents. Il ne fallait pas avoir peur de lui. Il ne se serait pas réveillé. C'est comme le chien à qui on a tiré l'oreille pour voir s'il dort bien. Alors maintenant il est réveillé. Alors on va vous dire, mais c'est complètement fou. Yaakov venu se fait agresser par Esav et vous venez nous dire que c'est de sa faute. Il y a deux vérités ici, il y a deux systèmes. Qui a raison d'attaquer l'autre? C'est vrai qu'il a, Yaakov Avinu a raison, c'est l'autre qui l'a attaqué. Qui a fait qu'il y ait une attaque? C'est Yaakov Avinu, c'est pas Esav. Parce que l'histoire aurait pu se passer autrement. Si je regarde au niveau de la responsabilité, Yaakov Avinu a raison, c'est lui qui est poursuivi. Mais si je ne regarde pas au niveau de la responsabilité, si je regarde au niveau des faits bruts tels qu'ils sont, c'est toi qui es responsable. On ne tire pas l'oreille au chien. Ah, tu sais, un chien méchant. Mais chien méchant ne veut pas dire, responsabilité ne veut pas dire attaque. Toute la vie est faite de ça. On va donner un exemple encore plus fort. C'est vrai que s'il y a une manifestation et qu'on réprime la manifestation avec des balles qui ne sont pas des balles de plastique, c'est qu'on n'est pas capable de gérer son chez-soi. C'est vrai. On ne peut quand même pas vivre en tuant tout celui qui bouge. Donc, corollaire, vous faites de la répression. Et la répression, fatalement, elle se retournera contre vous. Parce qu'on ne peut pas maintenir un système sur la force. C'est vrai. Mais on va peut-être se poser une autre question. On va demander, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, celui-là? Tu peux rentrer chez vous, vous ne lui avez rien demandé. Et après, vous n'arrivez pas à le sortir. Chaque fois qu'il bouge, vous le tirez dessus. Alors c'est vrai que vous n'arrivez pas à gérer votre chez-soi. Mais si tu me le laissais le chez-soi comme moi, je le veux, peut-être que j'arriverai à le gérer. Tout le problème est là. Il y en a un qui pense qu'il est chez lui. Et l'autre, on t'a fait une faveur. On t'a pas exterminé. On t'a pas chassé. On te prend comme un invité sur notre terre. Alors au moins, tu bouges pas. Tout dépend comment on voit le système. Moi, je peux le voir tout à fait autrement. C'est la guerre, tu as gagné. Et maintenant, t'en profites pour raccourcir hein, tous les autres. Ça, c'est Midvar Sheker Tirak. Il faut s'éloigner. Lorsqu'on est éloigné soi-même, on peut commencer à réfléchir. Ils savent, il a le droit de prendre l'effet brut. Il a le droit de vous dire, Yitzhak, il a voulu donner la bracha à Esav, on vous est déguisé, tant pis pour vous. Vous avez perdu. Le faussaire perd toujours. Très bien. Mais on ne peut pas m'empêcher, moi, de voir l'effet autrement. Et on ne peut pas m'empêcher, moi, de penser que la vérité, un jour, elle se révélera. Si pour récupérer mon bien, j'étais obligé de me déguiser, de qui puis-je attendre la justice? De l'autre? C'est à l'autre de juger ce qui est faux, ce qui n'est pas faux. C'est à celui qui m'a volé mon bien. Maintenant, on peut vous dire, mais c'est subjectif de penser qu'on vous a volé votre bien. C'est vrai. Mais je le pense. Ça, c'est ma réalité à moi. Comment puis-je admettre d'être un faussaire? On a le droit de se réfugier derrière des faits tels qu'ils sont vus avec une seule vision et de dire que l'autre est un voleur. C'est le droit de chacun. Chacun choisit sa référence. À une seule condition. Qu'il ne soit pas lui-même dans le système. À partir du moment où il n'est pas lui-même dans le système, il est obligé de prendre plus de références, il ne peut plus juger. Et ça veut l'obliger de dire, mais peut-être que c'est moi qui ai roulé Yitzhak, et Yaakov n'a fait que récupérer son bien. Une possibilité. Peut-être que ce n'est pas vrai, c'était mon bien et c'est lui qui m'a agressé. Deuxième possibilité. Ah, il y a déjà deux possibilités possibles. Pourquoi tu accuses l'autre d'être un menteur? Ça, c'est lorsqu'on se situe en dehors. Chaque fois que moi, je n'ai pris la photo que d'un côté, et je me contente d'une seule relation des faits, et de ne pas voir ce qu'il y a derrière ces faits-là, je n'ai pas le droit de parler de vérité et de mensonge. Et c'est la raison pour laquelle l'autre ne pourra parler de vérité et de mensonge que si lui, il appuie bien. Celui qui est au-dessus, il appuie bien sur le boiteux, pour surtout pas qu'il se relève. Surtout ne pas risquer qu'il y ait une autre vérité. Ça, c'est dans toutes les attitudes de la vie. C'est la raison pour laquelle on est toujours obligé de remettre en cause chaque attitude. Moi, je me sens chez moi, parce que le bon Dieu m'a promis une terre. J'ai donc le droit, moi, de conquérir. J'ai donc le droit, moi, d'asservir. C'est une vérité. Il y a une autre vérité. C'est que peut-être l'histoire, on ne la regarde pas jusqu'au bout, on commence à la regarder plus loin. C'est que les ondes t'ont donné quelque chose, c'est vrai. Mais sur le compte de quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse dire que l'invasion du Koweït, c'est une forfaiture. Pourquoi? Parce que les Anglais ont donné à une famille un petit lopin de terre qui rapporte des milliards. C'est pas normal. Puisqu'on parle de droit, selon le droit, l'invasion, elle est interdite. Selon la morale, c'est tout à fait autre chose. Droit et morale n'ont pas du tout besoin de s'accorder. Parce que le droit, c'est la convention qui est à respecter. La morale, c'est autre chose. C'est le jugement d'une attitude. Et le droit n'a pas à juger. Le droit est à respecter. Mais personne ne peut dire que c'est immoral. Pourquoi? Parce que ce que l'autre t'a donné, pourquoi l'a-t-il pas donné à moi? Et là, il n'y a aucune justification morale. Les Anglais, lorsqu'ils ont donné le Koweït à celui-ci, ils auraient pu le donner à l'autre. Il n'y a aucune justification morale. Et même de droit, c'est pas tellement facile. Ça, tout le monde le comprend. Après, on vient chez nous, on nous dit, vous savez quoi? Les Nations Unies vous ont donné une terre sur le compte des Palestiniens. Alors on va rétablir la vérité. Quand maintenant, on va rétablir la vérité qu'au Koweït, plus personne n'envisage que les anciens reviennent. Alors là aussi, on rétablit la vérité. Qu'est-ce que nous on dit? On a une autre vérité. Cette terre-là, elle a été donnée à Abraham, Israël et Jacob, c'est la nôtre. C'est une vérité. Moi, j'ai le droit de fonctionner comme ça. Si je pense que c'est ça, et je pense que c'est mon droit, et je pense que l'histoire m'a donné quelque chose, c'est pas l'autre qui m'a donné une terre, c'est le bon Dieu qui m'a donné une terre, j'ai le droit de raccourcir tout celui qui bouge, si je pense que c'est ça ma vérité. Mais je ne peux pas convaincre l'autre du fait que c'est la vérité. Parce que pour l'autre, c'est un mensonge. Parce que l'histoire, elle commence pas il y a 3500 ans. L'histoire, elle commence il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, de même qu'on a donné au Koweït ce terrain-là, et c'était injuste, maintenant on va rétablir les faits. Là aussi, on va rétablir les faits. Ça, c'est le piège de ce qui s'appelle un mensonge, ce qui s'appelle pas un mensonge. Et là, je ne pourrais convaincre personne. C'est impossible. Je pourrais dire, moi, je suis dans mon bon droit. Je tue, mais ce n'est pas du meurtre. Ça, c'est pour me protéger. Mais je ne peux pas forcer à l'autre de le comprendre. Alors, ça dépend de l'autre. L'autre pourrait très bien prendre mon point de vue et dire, il y a deux points de vue. On va en discuter. Non, l'autre, il fait le contraire. Il est le peuple juif. Il a reçu par hasard une terre, c'était sur le compte des Palestiniens. Ben, on va rétablir les choses, on va repartager. Il y avait déjà un partage, ça ne s'est pas fait, parce que l'autre était méchant. Alors, on va recommencer. Qu'est-ce que je peux lui dire à celui-là? Je ne peux rien lui dire. Parce qu'il n'est pas d'accord de remonter l'histoire aussi loin que moi. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Ce qui serait vrai pour les deux, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas trouver un compromis entre les deux. Ou de voir si on ne peut pas voir les choses d'une façon plutôt que d'une autre façon. Esav, il s'est toujours débrouillé, il se débrouillera toujours pour avoir sa vérité selon ce qu'il a envie. Et nous, on n'arrive pas à le comprendre. Et ça vient marquer ici, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met un boiteux. Il l'oblige à prendre sur ses épaules quelqu'un de bien portant. Il dit, tu as vu où tu es? Comment j'ai vu? C'est toi qui t'es mis sur mes épaules. Personne n'a obligé, ça va persécuter Yaakov. Une fois que tu l'as persécuté, tu as vu, le voleur est attrapé. Mais qui t'a demandé d'attraper? Laisse l'histoire. Ça, c'est une vérité. Et elle a été falsifiée, pourquoi? Parce que j'ai pris part à la chose. Et ça n'est pas obligé de persécuter Yaakov. Et puisqu'il n'est pas obligé de le persécuter, alors peut-être que Yaakov, lui, ne donnera plus la preuve de ne pas être le peuple élu. Quelqu'un qui vient est plus fort que moi, il me tape dessus. Il me dit, tu vois que tu avais tort. Comment j'avais tort? J'avais juste tort d'être faible. C'est tout. Mais tu n'as pas le droit de dire, c'est le jugement de l'histoire. Parce que si c'est le jugement de l'histoire, viens, on attend la fin. Ah non. Maintenant, on prend la photo. Et maintenant, on dessine. Dans tout, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a marqué que Mipne HaShalom, à cause du shalom, on peut changer. Parce que peut-être je vais prendre la vérité de l'autre, pourquoi prendre la mienne? Tu vas dire, mais dis-moi carrément que je mens. Je mens pas. Je me mets du côté de l'autre. Et l'autre, la façon dont il voit les choses, c'est différent. Mipne HaShalom, motar le shalom, t'as le droit de changer. Là, on va voir que même si nous pensons que la fin ne justifie jamais les moyens, jamais. Ça, c'est ma fin à moi. Mais la fin de l'autre et mes moyens, c'est deux systèmes qui ne s'affrontent pas. Et là, ça justifie. Tant que c'est ma fin et mon moyen, je n'ai pas le droit. Moshe Rabbeinu, c'était sa fin et son moyen. On t'a nommé prophète. On t'a nommé celui qui va transmettre la Torah au peuple juif. Ça, c'est la fin. Pour arriver à cette fin, tu vas mentir. Alors, rien ne vaut plus la peine, parce que la fin ne justifie encore que le moyen. Ça, c'est dans mon système. Mais lorsque je dois, moi, me référer au système de l'autre, Alors il faut voir si la fin de l'autre, elle ne justifie pas que moi je prenne, moi, pas mes moyens à moi, mais ses moyens à lui. Et là, ça change complètement. Parce que pour l'autre, il voit les choses autrement. Et sa vérité à lui, c'est pas la mienne. Ça, c'est une chose qu'on doit se mettre dans la tête, qu'on n'arrivera jamais à résoudre avec les autres. À moins de se retirer tous les deux. Midvar Sheker Ticha, qu'on a dit, il faut que tu sois loin, 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 alors tu peux juger les choses. Parce que lorsque tu es loin, tu vois comment l'autre voit. Si on sait faire ça, c'est autre chose. Mais nous, on est plein d'un monde qui ne se justifie que par ce genre de mensonge. Parce que c'est vrai que c'est au niveau des rapports du juif et du non-juif. C'est-à-dire, écraser les juifs, mais ne les anéantissez pas. Parce qu'il faut qu'une certaine vérité soit là. Donc tu es le gardien de la vérité, c'est toi qui l'as produit la vérité. C'est toi qui la façonne la vérité. Alors en quoi c'est une vérité? Ça c'est le mensonge. Et ça c'est au niveau du rapport du juif et du non-juif. Mais au niveau des rapports des hommes entre eux, c'est exactement la même chose. Moi j'ai quelque chose à céder, c'est toujours beau. L'autre a quelque chose à acheter, c'est toujours moche. Je dois pouvoir, moi, regarder avec les yeux de l'autre. Alors, à ce moment-là, je vais dire, mais je vais mentir. Midvar Sheker Tichak. Il faut juste s'éloigner. Lorsqu'on s'éloigne, on voit les choses autrement. La fin, en soi, elle ne justifie jamais le moyen. D'un autre côté, je vois... Le bon Dieu, il a le droit de mentir. Il relate les faits d'une façon qui n'est pas... Et ça, c'est bien. La fin justifie les moyens. Comment ça se fait? Parce qu'une fois, c'est dans mon système, et une fois, c'est le système de l'autre. Ce qui est juste et ce qui est faux, c'est selon ce que je veux bien arrêter ma réflexion dans un champ déterminé. C'est-à-dire que la référence, c'est moi qui la fixe. Et ça vivait, il dit, Yaakov, il s'est déguisé. Eh bien, c'est un voleur. Tu ne sais pas te demander pourquoi il s'est déguisé. C'est pas mon problème, il s'est déguisé, c'est un voleur. J'arrête mes définitions à ce champ-là. Yaakov, il dit le contraire. Il dit, Esav. Esav, c'est l'usurpateur né. Il a trompé son père pendant 30 ans. Il faut rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité, quelquefois, il faut prendre les armes de l'autre. Moi, je tire sur quelqu'un. Mais tu n'as pas regardé depuis le début qui est l'agresseur. Ah non, moi, je vois que tu tires sur l'autre, c'est ce que je vois. C'est à moi de déterminer quel est le champ de mes réflexions pour savoir quelle est la vérité. C'est pour ça qu'à toi, on me dit, éloigne-toi, va loin, 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 loin. Là, tu vas déjà voir qu'il y a plusieurs visions. Tu vois, il y a plusieurs champs. C'est ce qui fait... qu'on ne peut jamais être honnête si on n'a pas une référence extérieure. C'est impossible. Quelqu'un dit, mais c'est vrai. Ça ne m'intéresse pas. Il faut de l'extérieur, on le voit. Viens, on va raconter toute l'histoire depuis le début. Un fils a trompé son père pendant 30 ans, et ensuite l'autre, le guibord, le héros, il est venu, il a rétabli la vérité, il a pris les armes de l'autre. Ah, c'est déjà tout à fait autre chose. C'est le problème des policiers. Parce que pour protéger la société des criminels, je suis obligé de pénétrer dans leur monde. Si tu prends la photo au moment où on se conduit comme eux, tu n'as rien compris. Est-ce que moi je voulais donner ce crédit-là? Ou lui, son système est tellement large qu'il doit faire n'importe quoi avant de se justifier. C'est ça le problème. Tout le problème est là. C'est ça le problème de mensonge ou pas mensonge. On peut tout regarder selon son propre angle. La Torah, elle vient et dit, voilà. Ça, c'est une Gemara dans le traité de Tumura, elle est connue. On va dire pour terminer, lorsque Moshe Rabbeinu s'est préparé à quitter ce monde, il est allé chez son successeur Yoshua et il lui a dit « Demande-moi tout ce que tu ne sais pas. » Yoshua s'est offusqué. Il a dit « Moi, ce que je ne sais pas. » Est-ce que je n'étais pas toujours avec toi? Tout ce que tu as enseigné, je l'ai entendu. J'ai rien à te demander, je connais tout. Toi-même, tu as écrit dans la Torah, Vanar Yoshua lo yamish mitocha oel. Vanar Yoshua, Yoshua, le jeune Yoshua, lo yamish mitocha oel, il n'est jamais sorti de la tente. Chaque fois que Moshe Rabbeinu enseignait, il était là. Toi, tu penses que tu as tout livré? Qu'est-ce que je te demande? Je sais tout. Demande les commentateurs. Tu as besoin d'amener une preuve de la Torah? C'est pas possible, quand même. Imaginez-vous que vous avez eu un accident de voiture. Le lendemain, vous voyez relaté dans le journal. Et lorsque vous rencontrez les gens qui ont fait l'accident, vous allez témoigner, vous dites c'est marqué comme ça dans le journal. Tu as vu toi-même, pourquoi tu prends une référence? Il vient dire à Moshe Rabbeinu, on va regarder ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi? Puisque Moshe Rabbeinu sait bien, vous étiez toujours ensemble. Ici, on voit un grand Yesod. Toujours, ça veut dire quoi? Ensemble, ça veut dire quoi? C'est toi qui vas donner les définitions. On va voir la définition que donne la Torah, elle, par au-dessus, comment elle voit les choses. Yoshua, il lui dit à Moshe Rabbeinu, si on juge de ce qu'on était ensemble, je ne peux pas juger. On va voir ce qui est marqué dans la Torah. Ça, c'est l'œil extérieur qui a tout vu dehors. Ça, ça vaut la peine. Mais moi, qu'est-ce que je vais te dire? On était toujours ensemble. C'est quoi ensemble? C'est quoi toujours? Ah, il veut dire toujours, 2-3 ans, ça suffit. L'autre toujours, c'est toujours, toujours. Il n'y a plus de référence. Si on veut une référence, on est obligé de la venir de l'extérieur. Si quelqu'un va vous demander, le peuple élu ou pas le peuple élu, laisse que l'avenir juge. On va voir l'histoire jusqu'au bout et on verra. Pourquoi tu es pressé? Moi, je ne te demande rien qui prouverait que je sois le peuple élu. L'autre, il n'admettra jamais ça. Il sera obligé de vous dire, on veut les preuves. Et la preuve, c'est l'histoire telle qu'elle s'écoule maintenant. Ça, ça n'a aucun rapport avec la vérité. Ça, c'est dans la vie quotidienne. Tout est vrai et tout est faux. Je peux arriver à prouver que chaque chose, c'est comme ça et c'est comme ça. Comment je peux savoir si je suis honnête? Comment je peux savoir si mes références me donnent une image exacte des choses? Simplement, si je suis loin. Tant que je suis proche, c'est impossible. Tant que je suis proche, je ne vois pas. Comme ça, on peut comprendre ce qui est marqué ici dans la Gemara. Vient un autre, il me dit, voilà, tu as vu, il y a un faussaire, ça n'a pas marché. Enfin, il dit, mais malheur quand tu te relèveras. Si je suis un faussaire, tu n'as rien à craindre. Non. Dans le système qui est actuel, tu es un faussaire. Après, je ne sais pas. Je ne veux pas juger tout. Parce que celui qui doit juger tout, il est obligé de prendre le système de l'autre. Et ça, je n'ai pas envie. Le shalom, il n'est basé que là-dessus. Les rapports avec les autres, ils ne sont basés que là-dessus. Le fait de pouvoir raisonner soi-même, ça n'est basé que là-dessus. Parce que chaque fois qu'on voit quelque chose, la définition du champ de vision, c'est ce qui va donner la réalité et la vérité. Et ça, c'est à moi de le déterminer. Et comme c'est à moi de le déterminer, ça n'a aucune objectivité. C'est pourquoi nous, nous nous référons toujours à la Torah. Est-ce que c'est juste selon l'interprétation de la Torah? Ça, c'est intéressant. Mais de délimiter son champ de vision, de juger, ça, ça n'existe pas. Comme la Torah, on peut toujours dire, mais ça, c'est ta vérité à toi. Alors, je ne peux pas l'imposer aux autres.